Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons ici au studio Patrick Feli Abeli. Il est journaliste indépendant basé à Kinshasa. Il collabore avec Jeune Afrique Économie. Bonjour Patrick Félix Abeli.
Bonjour Guy Maté. Bonjour aux auditeurs de Radio Okapi.
Madame Néné Bintou Iragi Moudekereza, elle est présidente de la société civile du Sud Kivu. Elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL, collectif Simama Congo. Bonjour Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza.
Oui, bonjour Guy Maté.
Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Bonjour Christophe Châtelot.
Oui, bonjour Guy, bonjour les auditeurs et les invités.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective des 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes, comme vous le savez, dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Patrick Félix Abeli, il est journaliste indépendant basé à Kinshasa. Il collabore avec Jeune Afrique Économie. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, elle est présidente de la société civile du Sud Kivu. Elle est chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Au menu de cette émission, comment débloquer le processus de Luanda? Est-ce que l'arrivée de Trump va changer quelque chose? Jusqu'où peuvent aller les M23 RDF? Situation humanitaire au Nord Kivu et Sud Kivu due à la guerre entre les FARDC et les M23, et enfin la RDC et le Congo Brazza conviennent de relancer et consolider les études techniques relatives au projet de construction du pont Routrail entre Brazzaville et Kinshasa. Pendant ce temps, les travaux de construction du port en eau profonde des bananes piétinent. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de l'approbation par les FMI d'environ 3 milliards de dollars américains en faveur de la RDC. En effet, le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a approuvé mercredi 15 janvier l'accord des 38 mois d'un montant d'environ 3 milliards de dollars en faveur de la République démocratique du Congo. Cette approbation du conseil d'administration du FMI est l'aboutissement de l'accord négocié par les experts des ministères des Finances et Budget sous l'égide du ministre des Finances Doudou Fouamba Likunde en décembre dernier. Dans un communiqué de presse, le FMI précise que 1,728 milliards de dollars seront débloqués au titre de la facilité élargie des crédits FEC en sigle et 1,38 milliards de dollars au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité FRD en sigle en faveur de la RDC. Le directeur général adjoint et président du conseil d'administration du FMI Kenji Okamura affirme que l'économie de la RDC est restée résiliente avec une croissance économique robuste une baisse de l'inflation et des déficits budgétaires malgré les défis importants auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés dans l'est du pays et une crise de santé publique liée à l'épidémie d'Mpox. Patrick Feli Abeli, environ 3 milliards de dollars de la part du FMI en faveur de la RDC, une très bonne nouvelle. Cependant, une certaine opinion, notamment dans l'opposition politique en RDC, on redoute que l'usage de ces fonds ne puisse servir les intérêts de certains individus au lieu de contribuer au développement du pays.
Ok, merci beaucoup pour cette question, comme vous venez de l'évoquer tantôt. Il faut dire d'abord que ces genres d'accords de financement permettent aux nations, plus particulièrement à la République démocratique du Congo, de pouvoir avoir ce qui est comme trajectoire économique. C'est vrai, on est en train de saluer cet accord, mais c'est un endettement de plus parce que la manière dont les fonds ont été gérés ou bien les fonds sont gérés dans ces pays suscite plusieurs interrogations. C'est pour cela même avant qu'on arrive à cet accord, il y a eu donc les responsables du Fonds monétaire international ici à Kinshasa avec toutes les parties prenantes à ces processus se sont mis d'accord pour qu'on parvienne à cet accord. Mais la problématique qui se pose, vous savez, dans notre pays, il y a ces virus qui gangrènent, entre autres, la mauvaise gouvernance. Et c'était le facteur qui a permis d'abord que l'on puisse évaluer avant de pouvoir arriver à cet accord. Il y a par exemple certains facteurs qui influent et qui ont fait que les FMI puissent arriver là. C'est par exemple les renforcements de la stabilité économique. Donc, les programmes comme celui-ci permettra à ce que la stabilité du cadre macroéconomique et réduire aussi les déséquilibres budgétaires en stabilisant la monnaie nationale, le franc congolais. Comme vous le savez, notre économie, il est beaucoup plus extraverti, il dépend plus de l'extérieur. Et cet extérieur-là, nous, on ne produit pas. Nous ne sommes là que pour importer. Donc, avec ces genres d'accords, ça permet que la République démocratique du Congo puisse renforcer la stabilité économique. Au-delà de ça, il y a aussi l'assainissement des finances publiques. Là aussi, il se pose un autre problème. Les finances publiques ne sont pas bien gérées dans ces pays. Les finances publiques sont considérées comme des finances privées. Constatez ce qui se passe quand on nomme un mandataire, un dirigeant pour assurer la tête d'une institution. Donc il est là, il célèbre parce qu'il va arriver pour se servir de ces finances-là. Donc il n'y aura pas une bonne gestion. Il y a aussi, ça permet de réduire aussi la dette et améliorer la gestion de la dette publique. Et je sais quand même que les gens de l'opposition condamnent la manière de gérer que je venais de soulever tout à l'heure là. Mais il faut dire quand même que avant qu'on puisse arriver à cet accord-là, les autorités se sont mis d'accord. Et aujourd'hui, pour peut-être finir mon propos, ce qui est arrivé qu'on puisse arriver à cet accord, c'est-à-dire les fonds-là qu'on a toujours obtenus, il y a un certain critère qui a peut-être entraîné qu'on puisse arriver, c'est notamment la gestion des dépenses publiques à un moment dans ces pays. La procédure d'urgence des dépenses publiques était devenue un mode opératoire, un mode courant dans ces pays. Alors, il fallait que la procédure d'urgence puisse être arrêtée et je pense qu'avec les ministres actuels, il a cessé avec ces modes et du coup, je crois que les FMI est rassuré de pouvoir arriver à cet accord.
Merci. Maintenant, Bintou Iragi Mudekereza, comment vous réagissez à cette crainte que certains Congolais, notamment de l'opposition, expriment sur ce que pourrait être, n'est-ce pas, l'usage de ces fonds?
La crainte est fondée. Parce qu'on a vu par le passé, même un ancien ministre des Finances cité dans des dossiers de détournement et la suite n'a plus été connue. Donc c'est devenu une gangrène, cette histoire de corruption, de détournement dans notre pays. Et ça ne nous rassure pas, nous les bas peuples. Nous voyons souvent des grands chantiers lancés par-ci, par-là, des grands projets avec des millions de dollars, financé par les FMI, soit par la Banque mondiale, mais souvent qui ne sont pas clôturés, où on n'a pas de, on inaugure pas les réalisations, mais on voit seulement le lancement des différents travaux. et ça déçoit la population. Pourtant, ce sont des dettes que nos générations finiront par payer. Donc, quand on nous donne de l'argent comme ça, ce n'est pas pour nos beaux yeux ou quoi, ce sont des dettes et nos dirigeants devraient en tenir compte en utilisant cet argent pour les biens publics, pour les besoins de toute la communauté, mais pas détourner et réaliser des travaux ou des grands projets en faveur de la population.
Merci Christophe Châtelot. Votre réaction, vous également, au sujet de cette polémique que soulève l'approbation par la FMI d'environ 3 milliards de dollars américains en faveur de la RDC?
Oui, c'est ce que vos invités ont déjà rappelé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un prêt, autrement dit de sommes remboursables. Le FMI n'est pas une organisation philanthropique. Et qu'au-delà du remboursement, il va falloir mener un certain nombre de réformes pour pouvoir poursuivre ces différents plans de financement. Et ces réformes, généralement, sont assez douloureuses. Donc, qui dit gouvernance dit réforme du secteur public. Ça peut passer par des dégraissages, ça peut passer par tout un tas de mesures, encore une fois, qui peuvent être difficiles à avaler du côté congolais.
Merci beaucoup Christophe Châtelot. On prend une petite pause avec Tolérance Zéro des Roga Roga et on revient juste après.
Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga Arapora mabe epai ya chapeau na baninga bakoya Ki onti valeur na corruption gabeji a banir Destabilisation ya administration ya mboka toboye Je suis la voix des sans voix Oye lobami na pe na bimiki likolo Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout Tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e fan Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État aux affaires mouillibis avec les contrôleurs d'État très 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 corrompus la République est devenue bananière Biyoubipé et l'équi cette fois-ci au condialobi rupturé ouvre bien tes oreilles rupturé total Pétrole, boutique à côté détourné. Mangoyan zete, paye kenda, toye bite. Mangoyan impôt na douane, pour verser la trésor. Mangoyan la mérite au sein de décentralisation totale. Trafic d'influence, et comme être mon abino. Bomela kabato, bokana kabato. Bosala bato mabe, wona na za famille ya chef, wona na za mwana mokonzi, zéro, vraiment zéro. Mais ils ont concours été, to examen pour la koko ma mwana mokonzi na Congo. Yesa kakadra, hexe de vel, yango mabe na Congo mokonzi a lobi, rupture est totale. Mboka na yon internet eza mabe Ba intox inutile na ba réseaux sociaux okokoma liboma Le ballon se joue sur le terrain et non dans les gradins Arrête avec l'impunité
C'était Tolérance Zéro du célèbre auteur, compositeur, chanteur et guitariste congolais Roga Roga. À travers cette chanson, Roga Roga dénonce certaines antivaleurs, notamment la corruption. On revient à l'actualité de cette semaine. Le président de la République, Félix Tshisekedi, appelle à des sanctions contre le Rwanda et exclut tout dialogue avec le M23. Il a déclaré samedi 18 janvier 2025 au corps diplomatique accrédité à Kinshasa lors de la traditionnelle cérémonie d'échange des vœux du début d'année. Félix Tshisekedi affirme que dialoguer avec ces groupes armés reviendrait à légitimer ses actions illégales et à saper les principes fondamentaux de l'État congolais. De son côté, Kigali conditionne la reprise du processus de Rwanda par un dialogue entre Kinshasa et les rebelles. Pendant ce temps au Nord Kivu, les affrontements se sont poursuivis ce vendredi sur deux fronts autour de la ville de Goma. C'est notamment sur l'axe Kibumba, territoire de Nyiragongo, et sur l'axe Sake, territoire de Masisi. Christophe Châtelot, vous êtes journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Vous avez souhaité nous parler de ces sujets en les formulant par des questionnements. Comment débloquer le processus du Luanda? Est-ce que l'arrivée de Trump va changer quelque chose? Jusqu'où peuvent aller le M23 RDF? On vous écoute, Christophe Châtelot.
Oui, le sujet est d'autant plus d'actualité depuis hier où la ville de Goma semble menacée, ou en tout cas les combats ont rarement été aussi proches. Alors, est-ce que Goma est menacée? La question vaut d'être posée, puisque c'est stratégiquement et tactiquement pour le M23 et l'armée rwandaise une opération qui pourrait être assez risquée. C'est pas une zone qui lui est favorable, et puis le Rwanda s'exposerait visiblement et mettrait à jour en fait la présence de ses soldats sur le territoire congolais, ce qu'elle continue à nier malgré les différents rapports des Nations Unies. Donc est-ce que Goma risque de tomber, d'autant qu'il y a dans la ville des représentations diplomatiques étrangères, il y a la présence des soldats de l'ONU, il y a la séminaire d'essai, donc ce sont autant de présences qui, pour une opération militaire étrangère, sont, comment dire, gênantes. Les dégâts collatéraux seraient difficiles pour le Rwanda, à mon avis, à supporter. Mais ce que ça démontre, en tout cas, ces derniers combats, c'est qu'on n'arrive pas à contrôler la situation, et notamment tout le processus diplomatique, le processus de Luanda, est totalement dans l'impasse depuis le 15 décembre. Enfin, le 15 décembre, c'est devenu patent avec le refus de Paul Kagame de se déplacer jusqu'à Luanda en Angola. Mais on était assez peu optimiste sur les chances d'aboutir, étant donné, comme vous le remarquiez, Guy, les positions diamétralement opposées des deux parties, que ce soit Kinshasa ou Kigali. Alors, comment ou qui, plus exactement, pourrait maintenant débloquer la situation? On a vu que la médiation angolaise était peut-être arrivée au bout. Les États-Unis, eux, avaient donné l'impression, et pas seulement l'impression, s'étaient impliqués dans le dossier sous l'administration maintenant Biden. On les avait vus peser pour qu'un cessez-le-feu soit plus ou moins appliqué, décidé, on va dire, pendant l'été, plus ou moins respecté, et cette fois-ci pas du tout, il a explosé, il est en vol, on ne peut plus parler de cessez-le-feu, bien évidemment. Ils avaient soutenu le processus de Luanda. Maintenant, l'administration Trump a d'autres chats à fouetter. On voit que l'Afrique, d'abord, n'a jamais été une priorité dans la diplomatie américaine, quelles qu'aient été les administrations et les différents présidents ces dernières années. Et je pense que le Kivu paraît très lointain. Il y a un autre problème, à mon avis, c'est que le positionnement de Trump sur la scène internationale, on l'a vu dans quand il a évoqué le cas du Groenland ou du Panama, et il est dans une situation, comment dire, dominatrice, où les rapports de force font partie de son arsenal, et sur le principe, le fait qu'un pays étranger, le Rwanda en l'occurrence, attaque un pays souverain, je ne suis pas sûr que ça le dérange outre mesure. Russie-Ukraine est un autre exemple. On voit bien qu'il essaie de se positionner et il n'est pas particulièrement choqué par l'agression russe. Donc, est-ce que la nouvelle administration est une bonne nouvelle pour la RDC? J'en suis pas sûr. D'autant que la personnalité dont on parle le plus pour occuper le poste de sous-secrétaire d'État chargé de l'Afrique, Peter Pham, a eu par le passé des déclarations qui peuvent être assez embêtantes pour la RDC. Pour lui, la partition du Congo, cette balkanisation, si l'on veut, n'était pas là non plus un problème insurmontable à ses yeux. Donc, est-ce que ils vont peser tout leur poids pour retenir le bras armé rwandais au Nord Kivu. C'est pas certain. Or, les États-Unis restent, qu'on veuille ou non, la grande puissance mondiale. La Chine, on le voit, est très présente en RDC, mais sur le plan économique, pas tant sur le plan diplo. Donc, les États-Unis, pour l'instant, sont en période de changement. On verra quelle attitude ils adopteront vis-à-vis de la situation dans la région, au Congo en particulier. L'Union européenne, on voit qu'elle est aussi très divisée. Dès qu'il s'agit de parler d'éventuelles sanctions contre le Rwanda, ça fait l'objet d'un communiqué très sibilant début janvier après la chute de Masisi, où ils évoquent d'éventuelles mesures contre les fauteurs de troubles, en gros. Mais on sait qu'ils ne sont pas tous sur la même ligne. La France notamment, je suis pas sûr qu'ils soient en faveur de sanctions. Ils ont fait du Rwanda un de leurs alliés et un des piliers de la nouvelle politique africaine d'Emmanuel Macron. Donc, pas sûr du tout. Et l'ONU, elle semble hors jeu, notamment parce que Kinshasa et le président Félix Tshisekedi lui-même a demandé à plusieurs reprises le départ de la MONUSCO, la jugeant inefficace. Et c'est vrai que depuis que les premiers casques bleus sont arrivés en 1999, la situation n'a pas vraiment évolué. La situation sécuritaire se détériore très très sérieusement. Donc, comment demander maintenant l'aide de la MONUSCO, qui s'est retirée à la demande de Kinshasa du Sud Kivu, alors que le conflit déborde maintenant sur le Sud-Kivu? Voilà, quel levier diplomatique et sur qui Kinshasa pourrait s'appuyer pour demander à Kigali, à Paul Kagame et au Rwanda de faire une pause, de s'arrêter, d'arrêter l'agression? Ce sont autant de points d'interrogation. On ne voit pas très bien comment tout ça peut évoluer dans le bon sens ces derniers temps.
Merci, Maître Dene Bintou Iragi Mudekereza. Vous êtes présidente de la société civile du Sud Kivu. Vous êtes chef d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Vous êtes également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. À l'allure où vont les choses avec cette intensification des combats à quelques kilomètres de la ville de Goma, on a l'impression que c'est le langage des armes, n'est-ce pas, qui prévaut. À votre avis, à quoi servirait encore aujourd'hui le processus de Luanda?
Merci beaucoup, Guy. Ce n'est pas seulement la ville de Goma qui est ciblée, mais nous qui sommes dans la ville de Bukavu, nous sommes aussi angoissés par ce qui se passe dans les hauts plateaux de Fizi et Mwenga, mais également la prise récente de Minova. Donc, on est attaqué de tous les côtés. Et je pense que le processus vaut la peine d'être relancé, parce que nous-mêmes, nous plaignons de la complicité de la communauté internationale, du silence même de l'Union africaine qui a mis en place ce processus, autant que celui de Nairobi. Donc, c'est la communauté East African Community. Donc nous nous sentons de plus en plus abandonnés à notre triste sort. Pourtant, notre pays, c'est un pays solution, comme on le dit. Et nous sommes une solution pour la planète à travers nos forêts, nos ressources, nos minerais stratégiques. Et je ne vois pas que c'est de cette manière-là qu'on devrait protéger ces poumons de la planète. Donc tout le monde, en principe, devrait se sentir concerné par ce qui se passe en RDC. Parce que ces guerres déciment des vies humaines, mais aussi détruisent notre environnement. Et avec tous les déplacés internes qu'on a, ça a un impact terrible sur l'environnement, parce que pour construire des camps de déplacés par-ci, par-là, ce sont des arbres qui sont coupés, ainsi de suite. Et donc, moi je pense qu'il est temps qu'on accélère ces processus-là. Et il est temps que le président Kagame comprenne que comme l'avait si bien dit notre ministre des Affaires étrangères, qui n'est pas le gendarme de la sous-région, et donc il faudrait quand même qu'il rentre sur la table des négociations, et qu'il n'est pas question de donner des leçons à la RDC à négocier avec les terroristes du M23, sachant bel et bien que c'est lui qui les appuie. Donc je n'invente rien, les rapports des experts des Nations Unies sont trop éloquents par rapport à ça. C'est lui qui appuie les M23. Il y a même les éléments RDF sur notre sol et cela dure depuis 3 ans. On se demande on est dans quoi finalement. Donc moi je pense que le président Lourenço devrait réveiller encore ses pères africains à rencontrer Kagame, parce que ce qu'il fait à la RDC, ça nuit aussi à son pays. Moi, je suis dans la ville de Bukavu, je suis consciente, je suis témoin de la traversée des paisibles citoyens rwandais. Tous les soirs, ils viennent cultiver chez nous, ils viennent étudier chez nous, ils viennent même faire les petits commerces chez nous. Donc ça montre que de l'autre côté, l'image qu'il donne du Rwanda, ce n'est pas la vraie image qu'il a instauré la démocratie, qu'il a instauré la bonne gouvernance chez lui, que voilà, le Rwanda c'est un pays émergent, non. Donc nous voyons aussi même la souffrance des Rwandais, nous qui sommes des peuples transfrontaliers, nous voyons comment les Rwandais peinent quand ils traversent chercher de l'emploi dans des restaurants, ainsi de suite. Donc ils devraient comprendre que chaque fois qu'il alimente cette guerre, et ça ravive aussi en quelque sorte, ça détruit ces métiers qui a toujours existé entre les peuples transfrontaliers. Et ça peut faire que la situation s'aggrave. Et on sait comment une guerre commence, mais on ne sait pas comment elle finit.
Merci.
Donc moi je pense que ces pères africains ont l'obligation de le ramener à la raison pour que la paix puisse être rétablie. Et ça sera bénéfique pour tous les États de la région. Et même de l'Afrique, pourquoi pas.
Merci.
Donc il y a moyen de profiter des richesses de la RDC sans verser le sang des Congolais.
Voilà. Merci beaucoup, Madame Néné Bintou Iragi Mudekereza. Patrick Félix Abeli, vous êtes journaliste indépendant basé à Kinshasa. Vous collaborez avec Jeune Afrique Économie. Dans ce contexte d'intense combat, est-il facile de réactiver les mécanismes de Luanda? Et si ce processus est relancé, est-ce qu'il pourrait avoir des atouts pour imposer un règlement pacifique de cette crise?
Oui, moi je crois qu'il faut appliquer les deux méthodes à la fois. En même temps, la force, et évoquer aussi une possibilité de pouvoir se parler entre nous. Vous savez, il n'y a aucun problème qui peut se terminer sans qu'on puisse se parler, évoquer tous les problèmes qui sont à la base du conflit. Je sais que ce conflit sécuritaire a un grand enjeu et que c'est le Rwanda qui tire profit. Donc c'est une guerre économique qui est infligée à la République démocratique du Congo. Et quand vous essayez d'analyser tout ce qui se passe, la RDC se bat à plusieurs forces. C'est pas seulement les Rwandais. Les Rwandais, c'est un arbre qui cache la forêt. Alors, moi, je suis en train de fustiger l'hypocrisie qui caractérise la communauté internationale. Aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes pour retrouver la paix qui ont été enclenchés, notamment par l'Union africaine, pour tenter de trouver une solution à cette crise. Mais vous constatez qu'il y a une impasse totale. Et c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à la base de cette situation, c'est les présidents rwandais, Paul Kagame. Et quand vous essayez de voir l'attitude du président rwandais, cela signifie qu'il y a quelque chose qui cache sa persistance de pouvoir continuer à agresser les pays à travers ses coopérants de M23, ses sous-traitants, à travers quelques dignes fils du pays. Donc, moi je crois qu'il faut penser à toutes ces deux solutions, la solution de pouvoir appeler les compatriotes qui sont égarés pour dire voilà, vous voulez allumer les feux, pourquoi, qu'est-ce qui est à la base du problème. Donc on essaie d'évoquer tous les problèmes qui sont à la base du conflit entre nous en mettant de côté les parrains. Et à ce niveau-là, moi je suis d'accord que la solution à la crise peut être résolu. Mais quand on essaye, chacun dans son côté, il se dit, moi je suis fort et que celui-là, il est faible, j'estime que nous allons demeurer dans cette situation. Et ce sont des populations civiles, innocentes, qui en pâtissent. Et aujourd'hui, regardez avec ce qui se passe autour des Sake. C'est une tension qui est vive dans la ville de Goma. On connaît comment la ville de Goma est une ville dynamique, avec une population dynamique vouée à se rechercher, une population qui va librement à ses occupations.
Allez voir aujourd'hui comment la ville de Goma. La ville de Goma est dans une émotion totale parce que quand vous êtes au niveau de Sake, Sake c'est à quelques mètres, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Et du coup, c'est toutes les activités qui sont paralysées. Donc, la population est dans les qui-vive. Alors, pour sortir de cette impasse, je crois que les dirigeants qui ont la clé de pouvoir rétablir la paix, notamment c'est de la communauté internationale, ils doivent tirer les oreilles de leur sous-traitant Paul Kagame pour qu'ils reviennent à la raison. C'est vrai, il y a les fils du pays qui sont aussi dans cette entreprise macabre. Il suffit de pouvoir intervenir pour leur montrer que ce qu'ils font n'est pas correct. Ils doivent revenir à la raison.
Merci, chers auditrices, chers auditeurs. Comme vous le savez, l'actualité en RDC est dominée par ces combats qui opposent les FARDC et les alliés au M23 RDF au Nord Kivu. On va donc écouter une chanson liée à cette actualité. Il s'agit de la chanson intitulée « L'art de la paix » de Lexus Legal, dans laquelle Lexus Legal dénonce justement la guerre. Et on revient juste après.
Alors que le monde spectateur assiste au réveil de la vie, l'Afrique accentue son processus d'euthanasie. Aucune raison, noble soit-elle, ne justifie la prise d'armes par ses fils qui tour à tour sont traités. Frère ami, je ne suis pas ton amer ennemi. Il n'y a que toi et moi unis sur cette partie du monde. Le temps de la paix n'est pas qu'une chanson, mais un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Un pari osé, j'imagine. Un lourd tribut payé pour se défaire du colon. Un paradoxe de voir l'effort fourni par l'Africain pour se récoloniser. En effet, chaque conscience, crise qui s'enlise, balle qui crépite, fait appel au monde à notre chevet. Blessé des guerres que nous sommes, on nous ampute même sans anesthésie. Une solution parmi tant d'autres, on s'en contente. Mais quand viendra l'heure de construire si on passe notre temps à recoudre nos bêtises? Autant le ciel tient ses affres, le peuple tient la paix plus que ses soldats à son arme. Puisqu'aucun roi, président, dirigeant ne règne sur des cadavres, il est temps d'essuyer les larmes de ce peuple meurtri sans état d'âme. Le temps de la paix n'est pas qu'une chanson, mais un constat que la guerre au Congo n'a pas d'issue et n'est pas une solution. Frère ami, on n'est pas un meilleur ennemi. Condamnés à vivre ensemble, nous sommes reconnus coupables à vie. Dit-on, la richesse ne fait pas que des heureux. Au lieu d'être synonyme de vie, des joies, sourires et abondance, ces riches sous-sols sont plutôt source de mort, tristesse, vie, misère et désarroi. Méfions-nous, ils risquent de nous engloutir tous.
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir des 7h25 heures de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de l'approbation par les FMI d'environ 3 milliards de dollars américains en faveur de la RDC. Nous avons également analysé l'intensification des combats au Nord Kivu au moment où le processus de Luanda semble être au point mort. participe à cette émission. Patrick Félix Abeli, il est journaliste indépendant basé à Kinshasa. Il collabore avec Jeune Afrique Économie. Maître Néné Bintou Iragim Dekereza, président de la société civile du Sud Kivu et les chefs d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile. Elle est également coordonnatrice de l'ASBEL collectif Simama Congo. Et en ligne depuis Paris, capitale de la France, Christophe Châtelot, il est journaliste reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. Au Nord Kivu, des centaines de ménages fuient les zones de combat et arrivent à Goma. C'est une marée humaine de déplacés qui continue d'inonder les rues de Goma dans sa partie ouest. La ville de Goma s'est transformée en un vaste champ de personnes déplacées, alertent les acteurs sociaux. Ces personnes déplacées arrivent à masse fouillant les nouveaux combats dans leur village. Au Sud Kivu, Calais, centre et chef-lieu du territoire du même nom, est débordé par les nombres de déplacés qui viennent en masse de la partie nord depuis l'occupation de certaines agglomérations par les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise. Aux 600 000 déplacés internes qui fouillaient massifs vers Calais auparavant, s'y ajoutent plusieurs autres fouillant les zones sous contrôle des rebelles au sud Kivu. Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza, vous avez souhaité nous parler de la situation humanitaire dans le nord et le sud Kivu, du fait, n'est-ce pas, de cette guerre qui s'y déroule. On vous écoute, Maître Néné Bintou Iragi Moudekereza.
Oui, merci beaucoup Guy. Comme vous le dites, la situation humanitaire est dramatique et cela ne date pas d'aujourd'hui parce que la province du sud Kivu, comme vous le savez, est voisine à celle du nord Kivu à travers le territoire de Masisi. Déjà avant la prise de Minova, on comptait déjà plus de 350 000 ménages déplacés dans la seule zone de Minova. Et quand les terroristes du M23 sont entrés, ils ont commis des massacres sur les civils. La même nuit qu'ils sont arrivés, on a dénombré plus de 70 corps qu'on a retrouvés, des civils, des femmes et des enfants. Il y a même des cadavres qui ont été jetés sur les lacs parce que c'est au bord du lac. Maintenant, des familles entières se sont déplacées vers la presqu'île de Boulenga. Le lendemain même, avec les détonations qu'il y avait dans Minova, il y a même des civils qui ont été atteints, même dans la presqu'île de Boulenga. Ce qui a fait que maintenant, les gens quittent Boulenga vers Nyabibwe. Et ce sont des centaines de familles qui se déplacent, des femmes enceintes, des petits-enfants, ainsi de suite. Donc la situation est catastrophique. Même au niveau des hauts plateaux de Fizi et Minembwe, souvent on a tendance à oublier cet aspect des choses parce que le groupe armé Tui Rwaneo venait de déclarer qu'il soutient le M23. Donc il y a eu des affrontements et qui continuent également de ce côté-là entre l'armée loyaliste et ses groupes. Et là, les sources proches d'Otia parlaient de plus de 75 000 ménages déplacés sans assistance humanitaire parce que l'accès physique est très compliqué. Minembwe n'est accessible que par voie aérienne. Donc, comprenez les calvaires des populations, des blessés. Et on dénombre également des cas de viol, des cas de pillage des ressources par ces groupes. Et donc, c'est un peu très compliqué et déplorable. Donc, les humanitaires sont débordés et ça nous affecte tous parce que nous ne savons pas vraiment quand va finir ce calvaire. Donc, à part cela, il y a aussi certains éléments de FARDC et certains faux Azalendo également qui ont perpétré certains actes inhumains contre les populations civiles. Soit en fouillant, soit dans les replis. Donc ce n'est pas toute l'armée, je dois le préciser, il y a certains éléments incontrôlés. Et à ce niveau, nous pouvons saluer le courage de la justice militaire qui a mis la main sur certains éléments de l'unité Guépard qui a défrayé la chronique au niveau de Kavumu, de l'aéroport de Kavumu, et certains autres éléments de l'unité qu'on appelle SATA 2 qui est déployée à Calais. Donc certains éléments ont été maîtrisés par la justice militaire et nous encourageons la justice militaire vraiment à gérer ces cas.
Merci.
Mais la population reste confiante à l'armée congolaise et c'est même dans cet ordre d'idées que la société civile du Sud Kivu invite à une grande mobilisation populaire le mardi 28 janvier 2025 pour soutenir les phares d'essai et les vrais Wazalem qui sont au front, mais aussi faire beaucoup d'alerte à la communauté internationale qui reste silencieuse face à cette situation catastrophique dans notre pays.
Merci, madame. Donc,
nous ne voulons pas la balkanisation de notre pays, nous voulons l'unité de notre pays.
Merci.
Malgré certaines failles au sein de notre Allemagne, nous continuons à la soutenir parce que c'est l'unique que nous avons et c'est elle qui doit restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Et par la même occasion, nous décourageons toute cette guerre médiatique qui tend à vilipender nos forces armées, à discréditer notre pays et même à créer des discours de haine. Nous, la société civile, nous décourageons cela.
Merci,
et nous pensons que notre cri de détresse sera entendu en appelant à toutes les villes de la RDC aussi de marcher, parce que ce fut le cas il y a 20 ans. En 2004, quand Mutembusi avait pris la ville de Bukavu, tous les Congolais avaient manifesté et nous avons été libérés. Donc c'est le moment que tous les Congolais soient en alerte maximale pour défendre l'intégrité de notre pays.
Merci Christophe Châtelot. Quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, on a l'impression que le pays, donc la RDC, n'avait pas été préparé, n'est-ce pas, à cette nouvelle vague de déplacés. Et à votre avis, quel pourrait être l'apport de la communauté internationale pour aider la RDC à faire face à cette nouvelle situation humanitaire?
C'est-à-dire que j'étais à Goma fin novembre, début décembre, et je suis allé dans plusieurs camps, notamment ceux sur la sortie ouest de Goma en direction de Sake, là où d'ailleurs les gens sont, une partie d'entre eux en tout cas, sont appelés à nouveau à se déplacer. Et ce que l'on voit surtout, c'est que en effet, il faudrait davantage d'ONG internationales et étrangères, mais il n'y a que ça en fait. Il n'y a pas du tout d'intervention publique congolaise, donc ça pose question quand même, ne serait-ce que pour les adductions d'eau ou pour creuser et installer des latrines. Tout repose en fait sur les ONG internationales, sur le plan sanitaire aussi. Je pense que le CICR ou MSF n'ont pas des moyens extensibles à l'infini. Or, ils sont, comme le remarquait dramatiquement votre invité il y a deux secondes, ils sont au-delà du seuil critique. Je parlais à François Morellon du CICR hier à cause de ce qui se passait à Sake. Il disait que voilà, ils ont déjà dépassé le seuil critique en termes d'occupation des lits. À Goma, il y a 147 lits disponibles normalement, et il y en a 209, il y a 209 personnes blessées de guerre, on ne parle que des blessés de guerre. À Bukavu, pareil, à Beni, pareil. Voilà, c'est malheureusement, les chiffres sont tellement énormes, et c'est tellement dramatique, on ne sait même pas combien il y en a en fait. Est-ce que c'est 600 000 personnes déplacées? Est-ce que c'est 1 million, 2 ou 3, comme d'autres l'affirment? C'est innommable, c'est inadmissible, mais je n'ai pas vraiment de réponse.
Merci Patrick, Félix et Abeli. On s'est toujours demandé pourquoi les partenaires, les amis de la RDC, les partenaires de la RDC n'envisagent toujours pas une conférence internationale des donateurs, n'est-ce pas, en faveur des déplacés de la RDC.
Moi, je crois que même si on aurait à organiser cette conférence-là, si l'État congolais lui-même ne se rend pas compte qu'il est responsable de ce qui doit se passer sur le terrain, je pense que cette conférence-là, quand bien même on aura à récolter des dons en faveur de plusieurs déplacés, et je crois que nous allons faire toujours du sur place. Par le fait que dans ce pays, nous avons un ministère qui s'appelle ministère des Affaires Sociales. Moi, je suis en train de m'intéresser, de me poser cette question. Quel est le rôle de ce ministère? Et dans ces cas d'espèce, il fallait que l'État lui-même puisse se prendre en charge, apporter une assistance nécessaire à ces personnes qui sont dans cette condition-là. Alors aujourd'hui, je suis en train d'observer que l'État a abandonné ses responsabilités à des organisations humanitaires. Ces organisations qui sont venues ne sont venues qu'en appui. L'assistance qu'elles peuvent apporter ne pourra pas suffire parce qu'il y a un flux de déplacement de population. Et ces populations se sont déplacées parce qu'il y a une situation de guerre, une situation d'insécurité à la base de leur déplacement. Des gens ont abandonné leurs champs, des gens ont abandonné leurs parcelles, leurs résidences pour s'abriter. Et les conditions dans lesquelles ils veulent s'abriter ne sont pas conformes. Alors l'État congolais lui-même en est responsable de cette situation. Il doit d'abord se rendre compte que c'est moi le papa. Je dois me rassurer, est-ce que mes enfants qui sont dans des conditions précaires sont entretenus? Alors abandonner aux ONG cette situation, je crois que ce n'est pas la solution parce que ce ne sont que des amis qui sont venus nous aider. Leur assistance est limitée. Il faudrait que l'État seul puisse se rendre compte qu'il y a quelque chose qu'il faut faire pour des populations qui sont en détresse.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Bope Saïli Théa avec Jeannot Bombenga Yoando et on se retrouve juste après.
Tuni na baboti baye, bapesa yelite ya. Soki ngai na kosilika ubako kamatanga kama tumabeo. Aziri, bapesa yelite.
De Jeannot Bombenga Yoando qui vient de fêter ses 90 ans, c'était le 25 août dernier. Je rappelle que nous avons dans cette émission Patrick Félix Abedi, il est journaliste indépendant basé à Kinshasa, il collabore avec Jeune Afrique Économie, Maître Nene Bintou Iragi Mudekereza, présidente de la société civile du Sud Kivu et les chefs d'équipe du groupe de travail thématique élections et bonne gouvernance de la société civile, et également co-donatrice de l'ASBEL collectif Sima Makongo, et en ligne depuis Paris, capitale de la France, c'est Christophe Châtelot, il est journaliste et reporter pour l'Afrique subsaharienne au journal Le Monde. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, a exprimé dans un communiqué publié le 16 janvier 2025 son désaccord avec la décision du gouvernement de la RDC de privilégier la construction du pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville. Selon cette organisation de la société civile, cette option met en péril la souveraineté économique et maritime de la RDC en rendant les pays fortement dépendants des ports étrangers, notamment ceux des pointes noires au Congo et des Lobito en Angola pour son commerce extérieur. Pour rappel, les gouvernements de la République du Congo et de la République démocratique du Congo ont convenu récemment de relancer et consolider les études techniques relatives au projet de construction du pont route rail entre Brazzaville et Kinshasa. Patrick Félix Abeli, vous avez souhaité, n'est-ce pas, nous parler du projet pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville pendant que les travaux du port en eau profonde des Bananas piétinent. On vous écoute.
Voilà, merci beaucoup. Je suis en train de regretter plus sur ce qui se passe dans ces pays en ce qui concerne les modes de gestion. On se rend compte qu'on est plus dans les tâtonnements que à ce qu'on fait des choses sans pour autant se rendre compte. Aujourd'hui, je suis en train de constater que le gouvernement de la République, à travers Madame Soumino, qui est la première ministre, qui réactive ou qui veulent réactiver les projets pont, route, rail, un projet qui va être plus bénéfique au Congo-Brazza que la République démocratique du Congo. C'est vrai, je crois qu'il serait important d'abandonner. Il serait important d'abandonner ce projet-là par le fait qu'il y avait déjà un autre où on était même activé à pouvoir arriver avec une inauguration. Mais je crois que le projet de Anneau profonde de Banana qui a été mis de côté, c'est parce que il n'y a pas une bonne coordination entre les parties prenantes. Aujourd'hui, je me rends compte que la société qui était engagée dans ce projet, Deep World, pour ne pas les citer, a constaté juste qu'il n'y a pas assez du sérieux dans les chefs des autorités congolaises. C'est pour ça il a essayé de prendre un peu de distance. Vous allez voir, Guimaté, on veut favoriser les projets de la construction de ponts, routes, rails, pour que les Congo-Brazza, aujourd'hui, il y a plusieurs acteurs qui se sont levés pour s'opposer contre ces projets. Moi, je me demande pourquoi seulement aujourd'hui, Madame Soumino doit réactiver ces projets. Pourtant, les projets de la construction du port en eau profonde des Bananas, où on a même mené des études de faisabilité, le président Tshisekedi s'est rendu même au Qatar et il y a eu même des avenants qui ont été signés. Je me demande pourquoi on va abandonner ces projets, parce que jusqu'à présent, on ne communique ni même pas sur ces projets. On ne communique pas. Aujourd'hui, on ne sait pas dire aux populations congolaises que le projet s'est arrêté à tel niveau. Et justement, moi, j'ai pu effectuer une descente sur place. En tout cas, il n'y a rien sur le terrain. Il n'y a rien à Banana, à part les travaux du rasage qu'on a fait le long de la littoire. Le reste, il n'y a rien. Et depuis un moment, on empêche même aux acteurs de la société civile, aux journalistes, d'y accéder ici, ces sites. Parce que probablement, les projets, l'infrastructure devait être inaugurée en 2025. Et aujourd'hui, on est déjà en 2025. On a pris espoir de parler du pont en eau profonde de Banana. Aujourd'hui, on nous parle du pont route rail qui va être bénéfique au Congo-Brazza. Pourtant, il faut rappeler l'importance de ce port en eau profonde qui devra servir d'un poumon économique pour la République démocratique du Congo. Ça devrait aider que la République démocratique du Congo puisse gérer ses flux d'importation à partir de l'extérieur. Et aujourd'hui, quand on va donner la chance au Congo-Brazzaville de pouvoir passer avec ces projets, moi je crois que la République démocratique du Congo ne sait pas ce qu'on veut. Entre temps, la politique de vouloir courir à des lièvres n'est pas bénéfique, il y a risque et même le projet de pont route rail ne soit pas abouti et le projet de la construction du port en eau profonde des Bananas puisse rester et que les choses puissent stagner. Donc moi je lance un appel aux autorités congolaises de revenir au bon sens, de pouvoir privilégier d'abord la construction du port en eau profonde de Banana, parce que ce port pourrait faire de notre pays un acteur commercial important. Privilégier le pont route rail, ça sera bénéfique pour le Congo-Brazzaville et non pas pour la RDC.
Merci Christophe Châtelot, de Paris, d'où vous intervenez. Quel est le regard que vous avez par rapport à cette question, ces deux projets pont-route-rail qui doivent relier la RDC et Brazzaville et les ports à nos profondes de Bananas, qui sont des projets importants pour l'économie congolaise mais qui font débat. Quel est le regard que vous avez de Paris par rapport à cette question?
Alors je n'ai pas un regard d'expert contrairement à celui de votre invité. Non, ce que je constate à chaque fois que je vais en RDC et que je déplore à chaque fois, c'est l'absence criante de toutes les infrastructures. Il ne s'agit pas uniquement du pont. L'articulation route-rail, c'est pas une invention congolaise. Tout le monde discute de ça. C'est évidemment très important, mais ce sont des projets qui nécessitent des financements énormes, qui, comme le soulignait votre invité,
nécessitent
un minimum de suivi. C'est-à-dire que ce sont des projets à moyen, voire long terme. Or, pour l'instant, on a du mal à avoir une continuité dans la politique publique congolaise de construction d'infrastructures. Voilà, on voit les débats qu'il y a autour des nouveaux plans de circulation à Kinshasa. Donc, rapporté seulement à l'échelle de la ville, on voit que c'est un peu chaotique.
Merci, Madame Nene Bintou Iragi Muzikereza. Nous allons finir cette émission avec vous. Et vous, de la société civile, quelle pourrait être votre contribution, n'est-ce pas, par rapport à ces débats, les ponts route-rail entre Kinshasa et Brazzaville et les ports en eau profonde des Banana?
Oui, moi-même, je soutiens les collègues de la CAGE parce que ce n'est pas vraiment logique que nous puissions nous ouvrir au monde extérieur alors qu'à l'intérieur du pays, nous avons même du mal à circuler entre territoires, entre villes, entre provinces. Donc moi, je pense que la priorité du gouvernement serait de désengorger d'abord les routes nationales. Les routes nationales sont toutes presque dans un état de délabrement très avancé, ce qui renforce même l'insécurité, parce que du coup on a du mal à déployer les troupes, à réagir à temps, et ça facilite l'insécurité, ça ne facilite pas l'évacuation de produits qui pourrissent dans les champs. Par exemple, dans les territoires de Chabunda, on ne peut y accéder que par avion, et de même Fizi, dans les hauts plateaux là-bas. Donc nous sommes coupés parce que le site Kivu par exemple est traversé par 5 routes nationales mais qui sont toutes dans un état de délabrement très avancé. Donc j'aurais bien voulu que ces routes rail relient plutôt les territoires ou les provinces entre elles pour nous permettre d'abord nous-mêmes de circuler au pays et après on peut songer à nous ouvrir au monde extérieur. Donc, voyager par avion pour un Congolais, c'est un luxe pour aller dans les autres territoires, dans les provinces. Donc, je pense que nos dirigeants devraient privilégier ce qui est bénéfique d'abord pour la population congolaise et après, on va songer à nous ouvrir au monde extérieur. Donc, voilà ce que je pense à mon niveau de ces différents projets.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Christophe Châtelot, Maître Nene Bintou Iragi Muzikereza et Patrick Félix Abeli. Merci aussi à Pierre Diassinois qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe Didier Dadi et d'Hervé Voka sous la supervision de Martin Sebojangwe. À la présentation, Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Okapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiokapi.net. On se sépare avec Molingano, une composition de Jossar Myokalongo dans Aiko Langa Langa. C'est une façon pour nous, n'est-ce pas, de rendre hommage à Doudou Adoula Monga, qui a tenu avec beaucoup de vivacité pendant 20 ans l'animation, n'est-ce pas, de cet orchestre et qui était très prolixe. Doudou Adoula Monga nous a quittés le mois passé. Et pour lui rendre hommage, donc, nous allons écouter Molingano et on se retrouve le samedi prochain.
Mi coso kaka, na de la kibireko, poto kusa Afrika ya biso tukokize kokutana ya lelo ata obali ya misele kifami adye mwana mama ambasi ya motema
apare kimayo misulia misier
ambasi nanga tono mwemoka mosika Afrika ya biso tukokize kokutana ya lelo ata obali ya misele kifami Thank you.